vue d'ensemble de l'actualité.
C'est pas de la spéculation, il y a des choses sûres et graves, et c'est très clair pour nous ce que faisait M. Poutine. Il a essayé surtout de créer un doute, qu'on a vu, une tentative très très nette d'intervenir, mais surtout pour créer ce doute, pour essayer de délégitimiser nos institutions, nos élections, etc.
Préville PM.
Eh bien, il s'appelle Anthony Blinken. Ça va être le ministre des Affaires étrangères, donc, de Joe Biden. Premier commentaire d'abord sur Blinken. Valérie, vas-y donc.
Oui, bien écoutez, on revient au multilatéralisme, on revient à les années d'Obama aussi, parce que Blinken a conseillé Barack Obama, a aussi été très près de Biden. Il conseillait lorsqu'il était vice-président sur les questions de sécurité nationale. Et on va prendre la place d'un Mike Pompeo. Mike Pompeo, lui justement, qui était très, très près du président Trump, donc la diplomatie qui va être extrêmement différente. Et c'est un poste vraiment important. Aux États-Unis, là, c'est le diplomate en chef et c'est vraiment cette personne-là qui va changer la politique étrangère. On dit qu'on va revenir, on veut avoir le rôle de leader qu'on avait dans le temps des États-Unis. Peut-être qu'on va se rapprocher de nos alliés, justement, et peut-être moins tendre la main à des dictateurs connus comme Kim Jong-un ou d'autres que je pourrais nommer.
Oui. Alors, il a appris son français à Paris, n'est-ce pas, Luc?
Oui, il a grandi une partie de sa vie à Paris. Mais moi, j'ai envie de dire, parce que évidemment, il y a M. Blinken là, qui est nommé, mais il y a également John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, qui devient... émissaire spécial du président pour les questions climatologiques.
Oui.
Donc, j'ai envie de dire, s'il y a un titre qu'on peut donner ici, c'est le retour des élites. OK? Blinken, c'est tout à fait l'élite. John Kerry, c'est l'archétype même de l'élite de la région de Boston. Et aussi le
est-ce
retour...
Que c'est, est-ce que c'est, dans ta bouche, le mot élite, est-ce que c'est un mot positif ou négatif?
À mes yeux, extrêmement positif. Extrêmement positif. Je le souligne néanmoins parce que il y a un contraste tellement fort que là, je sais pas comment va réagir les 71 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. On voit Kerry revenir, on voit Blinken revenir, on voit tout ce que ce groupe d'individus ne voulait plus voir. Moi, je suis content de voir le retour des élites. Ce sont des gens qualifiés pour faire le travail. Mais d'un autre côté, j'entends son discours à l'heure actuelle, ou le peu qu'on en sait, pas son discours, mais ce qui a été dit ce matin, c'est un classique. Je sais pas s'il va être capable de rebâtir cette vision atlantiste. J'ai des doutes là-dessus. Il y a eu pas mal de mal qui a été fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, dans ta bouche, quelqu'un qui appartient à l'élite?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Le
ça
retour
veut dire
des élites, ça veut dire quoi, ça?
Il y a à peu près 25 très grandes universités aux États-Unis. Ils sont normalement éduqués là.
Donc Harvard, lui a passé par Harvard.
Harvard, Yale, Stanford, Cornell et tout ça. Ouais. Ça, c'est une partie de la définition de l'élite. L'autre partie de la définition de l'élite, c'est que ce sont des gens qui sont... tu sais, c'est comme le... Je dis ça souvent aux gens qui parlent contre les Américains. Il y a un niveau aux États-Unis qui est extraordinairement plus élevé que n'importe où ailleurs chez l'élite, en ce sens que scientifiquement, ce sont les leaders du monde. À toutes sortes d'autres niveaux, ce sont les leaders du monde. Et je sais pas comment expliquer ça. Ce sont comme John Kerry, je l'ai déjà rencontré. Là. Quand tu rencontres John Kerry, qui lui aussi parle très bien français,
oui,
tu te rends compte que tu es devant un aristocrate. T'sais, ça fait européen.
Mais c'est pas... Excuse-moi, Luc.
C'est pas clair à penser que c'est péjoratif.
Ben,
c'est-à-dire,
dans la bouche de certains et dans la conception de certains, oui, c'est péjoratif. Parce que du monde qui ont été élevés dans l'argent, dans les très grandes institutions pas toujours connectées sur la majorité, le petit peuple qui travaille durement puis qui paye ses impôts. Des fois, ce monde-là, à la gang qui sont, ils se parlent entre eux autres puis ils oublient justement l'Américain moyen ou le Québécois moyen ou le Canadien moyen.
C'est ce qui leur est arrivé et c'est ce qui a amené Donald Trump au pouvoir. C'est ça que je crains, en bonne partie.
D'accord.
Parce que quand je suis le reste de ces nominations, je vais redonner la parole à Valérie dans un instant. Bon, c'est aussi l'arrivée de la diversité dans le cabinet. Le nouveau secrétaire à l'intérieur, donc qui s'occupe des questions d'immigration et tout ça, Alejandro Mayorkas, il est né il y a 60 ans à La Havane. C'est le fils de il est né à La Havane. Ses parents étaient des anticastristes. Alors, on voit ça arriver maintenant. Il y a l'afro-américaine Linda Thomas Greenfield, qui a 68 ans, qui devient ambassadrice aux Nations Unies. Alors, c'est tous des gens de très grande qualité, Mais c'est tellement... Je sais pas comment dire, Bernard. C'est comme si ça vient confirmer l'existence d'un clivage.
D'accord.
Quand les républicains sont là, c'est une gang. Puis quand les démocrates sont là, ils viennent le confirmer, c'est une autre gang.
Bon, parlant de l'autre gang, la gang de Trump, Valérie, M. Trump, lui, a joué au golf en fin de semaine. Ça a fait grande impression, pas nécessairement positive.
Ah oui, c'est sûr, parce que c'est le sommet du G20 virtuel, hein, faut le dire, en raison de la pandémie, bien sûr. Puis le problème, c'est qu'il a quitté une rencontre qu'il avait, qui n'était pas dans les rencontres principales, mais où on parlait de la COVID-19 et de la pandémie. Donc là, tu as le président qui est encore en fonction, faut pas l'oublier. Là. On parle beaucoup de Joe Biden, président élu, qu'est-ce qui va se passer avec son cabinet et tout ça. Mais il y a encore un président en ce moment, et c'est Donald Trump. Et le fait qu'il avait quitté, justement, en pleine discussion sur la pandémie, bien, les gens ont vu ça comme une espèce d'affront en disant, bien, ça l'intéresse pas, et ça l'intéresse pas non plus de bien que peut-être conclure ses discussions avec les autres leaders, avec ses acolytes
s'en fout,
à l'international.
Valérie,
oui, je suis d'accord avec toi.
S'en fout.
Je suis d'accord parce que le G7, il avait quitté avant la fin. On le voit, là, toutes ces conférences-là, ça change rien. Et il y a une affaire que j'ai remarqué qu'il a dit justement aux autres leaders. Il leur a dit, c'est un honneur de travailler avec vous. Je vais continuer à le faire encore longtemps. Alors, il était encore dans le même discours qu'il y a au niveau national, bien sûr, à l'international, mais avec des gens qui, pour la majorité, ont déjà lâché un coup de fil à Joe Biden pour lui dire félicitations, Monsieur le Président élu. Bon. Donc, c'est assez spécial d'avoir lui qui conteste les élections, mais il y avait quand même Poutine de son côté, aussi le dirigeant du Brésil et d'autres qui ont encore
et
pas donné
Mexique,
la victoire.
Et du Mexique, Valérie.
Oui, c'est vrai, du Mexique, en Chine
Obrador
aussi.
Obrador n'a pas reconnu la victoire.
Oui, exactement. Donc, il s'est gardé une gêne en disant « Je vais attendre que les résultats soient certifiés pour pouvoir donner. » Donc, tous les autres leaders européens, les alliés, je vous dirais, classiques des États-Unis qui ont quand même félicité Joe Biden.
Mais la contestation des conseillers de Trump, de l'équipe de Trump, la contestation des résultats se poursuit, sauf qu'ils n'arrivent pas à obtenir des jugements favorables des tribunaux.
Ça se poursuit, Bernard, mais d'une façon littéralement clownesque, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire que là, il y a un juge de la Pennsylvanie qui a carrément engueulé un avocat pour dire « Voulez-vous rire de la cour, là? Vous n'en avez pas assez de votre petit manège, là? Il y a des grandes firmes d'avocats qui les abandonnent. Il y en a sacré une dehors, là, la dame qui avait parlé de... »
Trop extrême pour Giuliani, quand même.
Il faut le faire. Hein?
mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant...
Ça, c'est celle qui avait dit là, que le logiciel, Sidney Powell, le logiciel utilisé en Géorgie avait été pratiquement implanté par les communistes du Venezuela. Là.
Ah oui, Chavez avait été derrière ça. T'sais. Écoute, bon, hein, on était rendu loin, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réplique du camp Trump. Quand on a dit, justement, en Pennsylvanie, que c'était une vraie farce, puis qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de base juridique, ils ont dit « Merci, monsieur le juge, d'accélérer le processus parce qu'on va se rendre plus rapidement en Cour suprême. » Ça a été ça, leur réaction à cette décision-là de la Pennsylvanie. C'est pour vous dire à quel point ils veulent avoir un discours de personnes déterminées à se rendre le plus loin possible pour contrecarrer tous les plans. Et je vous rappelle là, qu'on demande au 8 décembre de certifier les résultats pour laisser le temps après aux grands électeurs de voter 6 jours plus tard. Mais, donc, la date arrive extrêmement rapidement.
Mais la réalité du quotidien, Valérie et Bernard, c'est que de plus en plus, les dirigeants des grandes institutions américaines font pas de commentaires, mais ont recommencé à faire leur job en ignorant ce qui vient de la Maison-Blanche.
Tout à fait.
Par exemple, la planification logistique de la distribution du vaccin, ça va à plein régime que Trump peut dire, faire ce qu'il veut, ça va plus vite que le reste. Fauci, tu sais, le pays est rendu ailleurs. Trump est devenu un personnage tragique, un kidam, quoi.
Bon, par ailleurs, juste en terminant, Luc, il faut que la diplomatie américaine continue quand même à faire son travail, peut-être pas à plein régime, mais on a vu que Mike Pompeo, le secrétaire d'État, aurait agi comme intermédiaire pour favoriser ou organiser une rencontre entre le prince saoudien Salman et le premier ministre israélien Netanyahou. À notre connaissance, c'est la première fois que les deux se rencontrent.
Oui, effectivement, et c'est un jalon de plus dans cette politique qui a commencé à être mise en œuvre il y a environ 6 mois, à savoir reconnaissance d'Israël et établissement de relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar.
Alors, ça sera porté au bilan positif de la présidence de Trump.
Oui et non, parce que ça dépend, là, Bernard, de quel point de vue tu le regardes. Moi, je trouve ça positif. Pourquoi? Parce que oui, c'est la paix par la peur, la paix par la force, mais la paix néanmoins. Et ce que les Américains sont en train de faire, c'est de bâtir une coalition sunnite qui inclut Israël pour faire face à l'Iran. puis à la capacité de l'Iran de rayonner sur un immense territoire qui inclut une partie du Pakistan, puis une partie...
OK, toi, tu dis que c'est une coalition qui favorise la paix parce que plus tu as d'États qui reconnaissent Israël, mieux c'est, mais tu dis que ça pourrait nous réserver des lendemains malheureux parce que c'est peut-être un bloc sunnite qui est en train de se constituer contre le bloc chiite mené par l'Iran. Et donc, il pourrait y avoir là-dedans les germes d'un affrontement entre sunnites et chiites, c'est ça?
Oui, oui. Bien, on le voit en préparation, cet affrontement-là, qui en fait se passe à l'heure actuelle dans d'autres territoires, Yémen, tout ça. Mais on arrive au clash. On sent là, que c'est qui va être le pouvoir régional? Une coalition des sunnites ou l'Iran et ses alliés, dont environ 60 % de ce qui est maintenant l'Irak?
Très bien.
Le choix qu'on a à l'heure actuelle.
Très bien.
Mais les Palestiniens, on n'en parle plus.
Oui, non, mais ça à mon
c'est ça,
avis,
la tristesse
ça, la vraie, ouais, voilà, la vraie tristesse, c'est ça. C'est que les États arabes larguent les Palestiniens et donc leur rapport de force s'envole en fumée.
Mais moi, je te soulignerais une dernière chose, c'est que tu regardes le cas de l'ex-Yougoslavie, quand ils ont négocié les accords de Dayton, Ohio, ils ont mis à quelque part ensemble, puis ils ont dit, on va s'entendre parce qu'on va mettre 10 000 soldats au sol, OK? Puis il n'y a personne, on demande à personne d'aimer soudainement plus l'autre qui l'a aimé avant. On leur dit juste, tu vas obéir aux accords ou alors c'est les armes qui vont te faire obéir.
Bon. Valérie, je te remercie.
Merci à vous deux.
On se reparle très bientôt. Luc, je te garde parce que je t'avais dit que je te ferais écouter cet extrait donc de l'entrevue que j'ai réalisée avec le docteur Richard Marchand, donc qui est microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça se passait la semaine dernière. C'est à propos du vaccin. Je veux conclure la discussion qu'on a entamée ensemble un peu plus tôt dans l'émission. On écoute d'abord le docteur Marchand.
Ben, la première chose que je vais aller voir, parce que moi, j'ai déjà fait de l'enseignement sur l'art, de faire des vaccins, des applications biotechnologiques, de l'immunologie à l'université. Première chose que je vais poser comme question, c'est quoi la cible du vaccin? C'est-à-dire, c'est quoi la cible du virus et est-ce que cette cible-là qu'on cherche à faire, pour laquelle on cherche à faire développer des anticorps peut ressembler à des composantes du soi? Là? Est-ce qu'on pourrait, par hasard, est-ce que les réponses immunitaires pourraient s'attaquer à nous-mêmes plutôt que juste au virus? C'est la première chose que je ferais avant de dire que je me fais vacciner. Et si je soupçonne qu'il y avait de la possibilité d'une réponse auto-immune, je serais très prudent avant d'accepter de me faire vacciner. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté.
Oui, mais c'est ça. Vous êtes très honnête. On l'apprécie, mais vous comprenez que des gens qui nous écoutent, qui sont des gens un peu sceptiques par rapport au vaccin, pourraient puiser dans vos réponses la motivation pour se convaincre de ne pas aller se faire vacciner.
Bien, ça serait une erreur aussi de ce côté-là. L'inverse, c'est pas mieux. En deux mots, il faut choisir le moindre. Ça, c'est toujours le principe. Mais ici, vous avez un organisme gouvernemental qui s'appelle Santé Canada et dont c'est la job, entre guillemets, là, de s'assurer et de vérifier. Et si vous écoutez bien Santé Canada, ils sont heureux de nous dire qu'on a des vaccins qui s'en viennent. Mais en même temps, combien de fois ils vous répètent par en arrière? Et soyez pas trop optimistes parce qu'on n'a pas encore la preuve de son innocuité. Ça, vous les entendez, les gens de Santé Canada qui nous disent ça? Là?
Bon. Voilà, Luc, c'est ça à quoi je faisais référence. Donc, encore une fois, je veux être bien clair. Si les autorités nous disent on peut se faire vacciner, c'est pas moi qui va me battre contre ça, là. Surtout si on nous assure que le processus a été intègre puis que notre sécurité est préservée. Mais quand j'entends des experts comme le docteur Marchand dire « faisons attention aussi, si on veut aller trop vite, on pourrait, à un moment donné, se créer des problèmes ailleurs. » C'est juste ça.
Je sais pas pourquoi il dit... Je l'écoutais, là, c'était un professeur, là, il le disait lui-même, puis il y avait des considérations. Moi, je suis obligé, comme citoyen, de dire... Il y a des experts scientifiques, ceux de Pfizer, ceux de Moderna, ceux d'AstraZeneca, tous ceux-là. Ensuite, il y a ceux de Santé Canada. Il y a ceux de la santé publique du Québec.
On fait confiance à Santé Canada.
De l'Angleterre, de la France. À un moment donné, le citoyen que je suis, il n'écoutera pas le docteur Marchand. Je l'aime bien. Il a de l'air d'un homme très honnête. Je vais écouter ce que les autorités me recommandent.
Oui, oui.
Pour une fois, là, il faut qu'on gagne cette guerre. Puis je ne connais pas d'autre façon.
Oui, mais là, Luc. Là, tu es correct, là, tu t'emballes, là, mais d'abord,
le vaccin
de Pfizer, puis le vaccin de Moderna, puis le vaccin de AstraZeneca, c'est pas le même vaccin.
Non, c'est pas le même. Ils n'ont pas la même approche. D'ailleurs,
bon,
la plupart des scientifiques que je lis disent que c'est excellent que ça
les
soit
deux premiers, les deux premiers avaient la même approche. Le troisième a une approche différente, ce qui fait qu'on peut le garder à une température plus élevée. Bon, très bien. Mais ce que je te dis, moi, c'est le jour où Santé Canada va dire on homologue le vaccin, il est sécuritaire, je vais avoir confiance. Mais je me contenterai pas des l'assurance de, des compagnies qui me vendent le vaccin. Là. On s'entend
non,
là-dessus.
Le Food and Drug Administration aux États-Unis, ils sont sérieux aussi. Là.
Oui, oui, oui. Mais ça,
c'est,
mais
ça, on va le savoir, leurs commentaires, je pense que c'est le 12 décembre.
Oui, c'est ça. Alors, on va voir. Moi, je souhaite qu'on l'ait le vaccin le plus rapidement possible. Là. D'abord parce que ça devrait nous permettre de sauver des vies. Puis,
mais moi,
à terme, ça va nous permettre de sortir de la de pandémie plus tôt que tard.
Mais moi, je parle là, un instant, pas comme un scientifique que je ne suis pas de toute façon, mais comme un communicateur. On est depuis peut-être le mois de... ou depuis la deuxième vague, le septembre, toutes les communications sous toutes les formes viennent remplies de contradictions. Et ça fait que les gens deviennent complètement perdus, alors j'ai peur à ce genre de discours.
Je comprends. Mais en même temps, Luc, il faut
qu'on soit clair en communication. Bang!
Oui, mais en même temps, on ne peut pas se mettre à cacher des choses aux citoyens. Il faut trouver le juste équilibre entre une ligne qui est cohérente et aussi la vérité. Parce qu'à un moment donné, si le citoyen a l'impression qu'on essaye de le remplir, là, ben il suivra plus, avec raison, parce qu'il va se dire, vous nous cachez quelque chose. Ben si vous voulez nous cacher des choses... excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si vous voulez nous cacher des choses, ben nous autres, on ne vous écoute plus. On ne vous fait plus confiance.
Mais quand je viens, que je ne sais plus trop quoi comprendre quand je les écoute, ça m'aide pas.
Non, je suis d'accord. Mais on essaye de les démêler, nous autres.
On travaille fort là-dessus.
On travaille fort là-dessus. Bon, parlant de travailler fort, Luc, parlant de démêler, écoute-moi bien le lien que je vais faire. C'est aussi magnifique qu'une passe de qu'un but de Mario Lemieux. Parce qu'après la pause, nous allons déterminer, toi et moi, avec les auditeurs, lequel des deux était le meilleur joueur entre Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Es-tu content?
Ah oui, monsieur.
On s'en va ailleurs, là. On sort de la COVID.
Oui, monsieur.
On se paye un peu de plaisir dans un instant.